Bonsoir à tous, bienvenue. On ne va pas attendre le quart d'heure poids de vin, les personnes en retard nous rejoindront. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Thierry Olive. Donc dans le cadre de notre exposition Apprendre à l'ère du numérique, que vous pouvez voir donc jusqu'au 17 novembre. Donc c'est une exposition qui est gratuite, qui retrace notamment l'histoire de l'éducation et du matériel donc utilisé pour l'information et l'éducation. Donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler, donc écrire avec un stylo ou un ordinateur, cela change-t-il quelque chose? Donc on aura la réponse d'ici une heure. Et c'est Thierry Olive, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille donc à l'université de Poitiers et plus particulièrement au laboratoire CERCA, centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui va nous faire cette présentation. Et après, donc, on pourra échanger ensemble. Je laisse tout de suite la parole.
Merci Christine. Je voudrais commencer par remercier l'Espace Mendès France pour cette invitation. Et puis vous demander de m'excuser pour ma voix. C'est pas ma voix normale. Depuis quelques jours, j'ai des difficultés, mais aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pu enseigner ce matin, donc je devrais pouvoir tenir l'heure complète aujourd'hui. Mais voilà, excusez-moi s'il y a des fluctuations dans ma voix et si des fois, les mots ne passent pas bien. Bref, donc écrire avec un stylo, avec un ordinateur, cela change-t-il quelque chose? Alors pour commencer, peut-être dire que ça a aussi cette histoire a vraiment commencé au début des années 2010. Vous avez probablement tous été questionnés par cette question-là lorsque plusieurs pays, que ce soit les États-Unis ou des pays d'Europe du Nord, ont posé la question de supprimer l'apprentissage de la calligraphie à l'école. Alors pourquoi est-ce que je cite cette période-là? Parce que ça a été un point charnière pour les recherches sur l'écriture en particulier. Alors ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans que je travaille sur l'écriture, mais à partir des années 2010, on a enfin rencontré une demande sociétale. C'est-à-dire que les recherches sur l'écriture ne rencontraient pas de demande sociétale, en tout cas uniquement pour les questions liées à l'apprentissage. Et à partir de 2010, s'est posée cette question-là et on a été interrogé à la fois par des décideurs, par des hommes politiques, mais aussi par des journalistes. Et vous avez ici, par exemple, deux journaux américains qui ont interviewé plusieurs collègues, dont moi-même, et qui posaient la question « Is handwriting becoming extinct ?» Donc, est-ce que l'écriture manuelle va disparaître? Et donc, les questions qui ont été posées, c'était « Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à écrire à la main ? Et est-ce que c'est un avantage d'écrire à la main par rapport à écrire sur un clavier avec un ordinateur ?» Globalement, ce que je vais dire dans cette conférence, c'est ce qu'on disait déjà, ce qu'on répondait déjà à l'époque. Je vais simplement rajouter quelques informations sur la prise de notes qu'on n'avait pas à cette période-là. Globalement, je vais quand même vous rassurer d'entrée, vous pouvez prendre des notes sur votre ordinateur. On peut écrire avec un ordinateur, mais il faut savoir que ça peut faire quelque chose, ça peut changer quelque chose. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça change. Alors pour commencer, évidemment, quand on parle d'écriture et d'outils et d'ordinateur, on parle d'outils, c'est une question d'outils. Alors on ne peut pas parler d'écriture sans ordinateur sans faire un très rapide panorama des outils d'écriture. Et je prends la citation de Louis-Jean Calvé, qui est un très grand historien de l'écriture, et qui dit « L'histoire de la lente élaboration de la mémoire écrite des hommes ». Et évidemment, l'écriture, c'est la mémoire écrite des hommes. J'ai cité aussi Jacques Gaudy, qui propose que l'écriture est ce qu'il appelle les origines de la société humaine. Je vous rappellerai que simplement que la période qui commence l'histoire, avec un grand H, elle débute avec l'invention de l'écriture. C'est-à-dire à partir du moment où on a pu écrire l'histoire et qu'on a eu une mémoire qui s'est inscrite de façon pérenne. Donc l'histoire commence avec un grand H. Alors les historiens se posent la question de l'écriture de l'histoire, savoir qui écrit l'histoire et quelle est l'histoire que l'on écrit. C'est pas cette question que je pose. Mais elle a commencé par une invention, un outil. Un outil qui permettait au départ simplement de transcrire le code oral en un code écrit. Vous avez quelques outils ici de base. Vous avez ici quelques outils de base. On va commencer par les premiers, les calabes, qui permettaient de faire quelques inscriptions dans de l'argile. Et puis après on est passé à la plume, le roseau. Le stylet en plomb qui permettait de faire des deux tracés. Et puis il y a une grande révolution technologique. Et je dis bien technologique parce que ça peut paraître anodin, mais c'est une vraie révolution technologique. Première révolution technologique, c'est le stylo à plume. Pourquoi c'est une révolution technologique? Tout simplement parce que la plume est toujours identique. Ne s'abîme pas. Et on transporte son encre et on transporte son stylo avec. Et on peut le mettre dans une poche, on peut le mettre de partout. Alors que vous imaginez la plume, la vraie plume, la difficulté qu'il y avait pour la conserver. Et puis, là, surtout, la très grande révolution technologique, on la doit à un certain monsieur, monsieur Bic, c'est le stylo à billes. Le stylo à billes a été la révolution. Alors, je ne sais pas comment, s'il y a des enseignants qui travaillaient à cette époque-là, lorsque le stylo à billes est arrivé, mais je me souviens que quand j'étais encore assez jeune, il y avait encore les tables d'école avec le trou pour l'encrier. Et donc, vous savez qu'il fallait le buvard, il fallait pomper, etc. C'était très compliqué. L'écriture est un véritable exercice. Il fallait bien tenir les plumes dans un certain sens pour faire les pleins, les lier, les délier, etc. Le stylo bic, ça a été beaucoup plus simple. Il était jetable, il coûtait pas cher, on pouvait le remplacer. Ça a été une grosse révolution technologique. Et puis le feutre, alors on est à peu près pareil. Mais vous voyez que déjà au niveau des façons d'inscrire la trace écrite, il y a déjà une histoire de l'outil, une histoire des changements technologiques. Et puis, bien sûr, l'autre révolution, c'est quand on passe à la machine. Et arrive avec la machine à écrire le clavier. Je vous ai mis deux machines. Elle a une première qui est très jolie, qui est vraiment une très ancienne. Je crois que c'est une Scholl, si je me souviens bien. Et puis, une autre révolution technologique avec les machines à écrire, c'est les machines à boules. Autrement dit, il n'y a plus tous ces marteaux qui vont taper la feuille, et j'y reviendrai plus tard, pardon, mais il y a cette boule qui tourne et qui vient taper la feuille, mais qui a toutes les lettres à la fois. Une invention d'IBM. Et puis, dernière étape, dernier changement technologique, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'ordinateur avec le clavier. Alors, le clavier. Bien évidemment, le clavier d'ordinateur est emprunté au clavier de la machine à écrire. Et j'y reviendrai plus tard. Mais il faut savoir que les claviers que vous utilisez, que ce soit les vôtres actuellement ou tous les autres claviers que vous utilisez actuellement pour la plupart d'entre vous, ne sont pas dits ergonomiques. J'y reviendrai aussi, pourquoi on ne les appelle pas ergonomiques. Et on a finalement créé des claviers ergonomiques. Ergonomiques dans le sens où ils sont adaptés aux demandes de la frappe et d'une langue. Vous avez ici, au milieu et à la droite, deux claviers ergonomiques. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont à l'exposition aussi. Et en particulier un clavier d'apprentissage avec des couleurs qui permettaient, selon les méthodes d'apprentissage de l'époque, de placer les doigts et de frapper les touches selon un certain ordre, etc. Donc vous voyez des changements technologiques qui vont venir affecter la façon d'entrer du texte. Et puis, il ne faut pas oublier, et c'est important pour mon propos, j'y reviendrai, que non seulement on trace du texte avec un outil, mais on le trace sur un support. Et là aussi, il y a eu des révolutions technologiques. Alors, le premier support, vous le connaissez tous, c'est la tablette d'argile, celle qu'utilisaient les Sumériens. D'ailleurs, ce n'était pas des tablettes au départ, c'était plutôt des petites boules d'argile dans lesquelles ils mettaient des petites empreintes au début pour compter ce qu'ils mettaient dans les stocks lorsqu'ils ont commencé à faire de l'agriculture. C'était pour une mémoire, finalement, plutôt comptable, plutôt administrative. Et il faut penser que l'écriture a été inventée pour des questions administratives, en fait. Non pas pour des questions de récits, d'histoire, de tout ce que l'on veut, c'était vraiment pour une mémoire de l'administratif. Et donc, on est passé de l'argile au parchemin, au papyrus, au velin, en peau de bête. Et puis, l'invention du papier qu'on connaît actuellement. J'en ai mis quelques-uns, alors pardon, il se voit sur votre écran. Donc, le papier classique blanc, et puis après, on a inventé des lignes, les lignes CIS, les quadrillages 5 par 5 mm, et puis finalement les cahiers qu'on utilise tous, qui sont reliés avec différents types de reliures, avec des feuillets détachables ou pas, etc. On va dire qu'on est à peu près, si ce n'est le passage de l'argile au parchemin, on est à peu près sur le même développement de nos outils, on ne peut pas dire qu'il y a une grande révolution technologique encore. D'autant plus que les cahiers existaient déjà avec les parchemins, on avait ce qu'on appelait les codex, qui étaient des parchemins, ou en tout cas des volets reliés ensemble avec du tissu, les anciennes reliures, avec des fils. Bref, tout ça, on est dans un développement classique. Mais évidemment, le gros changement technologique, il intervient lorsqu'on commence à tracer, non pas sur une zone concrète, physique devant nous, mais à partir d'un clavier qui envoie à un écran. Et puis, dernière révolution technologique, ce sont les tablettes et les smartphones, qui deviennent maintenant des outils d'écriture. On a fait une enquête à l'université de Poitiers sur la prise de notes des étudiants. Ce n'est pas encore majoritaire et ça dépend des secteurs, mais on a jusqu'à 40% d'étudiants qui prennent des notes avec des tablettes dans certains domaines. Donc on est véritablement avec un outil de prise de notes, un outil d'écriture aussi. Or, vous pouvez le remarquer qu'une différence par rapport au clavier, par rapport à l'ordinateur, c'est que lorsqu'on est sur une tablette, que l'on veut écrire, le clavier apparaît et vient prendre une part de l'écran. J'y reviendrai plus tard sur cette question-là. Et puis, dernier point qui est fondamental, c'est que si vous avez bien regardé votre clavier de votre smartphone ou de votre tablette, les touches changent en fonction du contexte. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais vous regarderez. Selon les contextes dans lesquels vous êtes, si vous êtes en train de rentrer par exemple une adresse email, il y aura une touche arrobase qui peut apparaître. Si vous êtes plutôt dans un tableur, il y aura plutôt des chiffres. Donc, ce qui apparaît sur le clavier n'est pas cohérent d'une session à l'autre d'écriture. Et vous imaginez que d'un point de vue cognitif, psychologique, ça peut poser des questions puisqu'il faut mémoriser les touches. Donc voilà un petit peu très rapidement, une brève histoire, je dirais, non pas de l'humanité, mais une brève histoire de l'écriture, qui met en tout cas en avant deux choses. J'y reviendrai, mais c'est qu'on ne peut pas considérer qu'écrire avec un ordinateur, c'est écrire avec un clavier. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Je vais malgré tout commencer par le premier point, le plus important, il me semble, et c'est celui sur lequel on est le plus généralement questionné par les parents, par les étudiants, par les politiques, par les décideurs, par les entreprises, c'est le clavier. Quelle est l'importance d'utiliser un clavier plutôt qu'un crayon ? Avant de vous présenter plus en avant les claviers, il faut évidemment dire qu'un clavier n'a pas la même praticité qu'un crayon. Avec un crayon, vous pouvez noter du texte, donc tracer de l'orthographe, mais vous pouvez aussi, en particulier lorsqu'on prend des notes, faire des dessins, faire des schémas. Vous pouvez gribouiller, faire des gribouilles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je rappelle que le gribouillage est parfois aussi un outil pour focaliser l'attention. Ce n'est pas grave de gribouiller lorsqu'on est dans une activité cognitive. Ça aide à focaliser l'attention et ça aide à être plus créatif. Il y a quelques travaux qui ont montré l'avantage du gribouillage. En tout cas, vous voyez que lorsque vous avez un stylo dans les mains et une feuille de papier, c'est probablement beaucoup plus facile de prendre des notes et d'écrire des choses qui sont autres que du langage. Parce qu'évidemment, quand on écrit, on ne fait pas que du langage. Alors, quand on écrit une lettre, un texte, très souvent, on passe en du langage. On peut faire des schémas, on peut faire des dessins, des tableaux, des figures, des diagrammes, des notes. On peut même faire des signes qui peuvent indiquer une relation, une flèche entre deux éléments, etc. Vous voyez très bien que lorsqu'on va se mettre avec un ordinateur, la question est complètement différente. Comment je fais tous ces dessins? Comment je fais tous ces signes? Comment je fais un graphique? Alors qu'en quelques traits, il peut être dessiné avec un stylo. Alors, pour commencer par le clavier, un petit retour sur le clavier AZERTY-QWERTY. Vous avez ici la disposition du QWERTY, puis en dessous la disposition du clavier AZERTY. Et il faut savoir que ce clavier n'a pas été développé pour répondre aux demandes de l'être humain en train de frapper. Les lettres qui sont le plus espacées sur le clavier sont simplement espacées pour éviter que les marteaux s'en mêlent pendant que l'on frappe. Souvenez-vous des vieilles machines, non pas celles qui ont, comme IBM l'a inventé, la roue, la boule, mais celles qui ont toutes ces marteaux qui se relèvent et qui vont taper sur la feuille. Il se trouvait que sur les premiers tests qui avaient été faits des premières machines, donc avant à la fin du 19e siècle par Scholl, lorsqu'ils arrivaient à un certain niveau d'habileté dactylographique, ils tapaient suffisamment vite et les marteaux s'en mêlaient. Ils ont donc décidé de mettre les lettres les plus fréquentes ensemble, les plus éloignées sur le clavier, parce qu'elles correspondent aussi à des marteaux qui sont le plus éloignés. Et donc la disposition que vous héritez de vos claviers est simplement une disposition que vous héritez d'une contrainte purement mécanique et absolument pas ergonomique ni psychologique. Pourtant, un siècle après, on utilise encore ces claviers. Alors nous, psychologues ergonomes, on se dit toujours comment c'est possible. Il y a un psychologue, M. Dvorak, américain, qui a travaillé sur la mise au point d'un clavier adapté. C'est ce qu'on appelle maintenant le clavier Dvorak. Il y en a des Français. Il y a le clavier Dvorak français, le clavier Dvorak anglais. Vous pouvez les utiliser. Il y a tout un tas de types de claviers, on ne les connaît pas. Et l'objectif de Dvorak, c'était de maximiser l'alternance entre les mains. Alors pourquoi l'alternance? Parce qu'on a montré qu'il est plus facile de taper deux touches avec une main puis avec l'autre que deux touches avec deux doigts. Le temps, lorsqu'on mesure le temps qu'on enregistre l'écriture et qu'on mesure la durée entre deux frappes pour les mêmes lettres, est beaucoup plus courte, même si les lettres sont côte à côte, lorsqu'il s'agit de le faire à deux mains que lorsqu'il s'agit de le faire à deux doigts. Donc il avait observé ce résultat, il s'est dit, bon, on va faciliter la frappe à deux mains et non pas la frappe à une main. Il a ensuite réparti les touches de façon équitable sur les différentes mains, sur les deux mains, pour que ce ne soit pas une main qui soit plus utilisée que l'autre. Et enfin, il a essayé d'utiliser en priorité la rangée du milieu, celle qu'on appelle, lorsqu'on apprend la dactylographie, la rangée de repos, celle où normalement vous posez vos mains. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur tous vos claviers, il y a deux petits ergots sur la lettre F et J. Vous pourrez regarder en rentrant chez vous, et ces deux petits ergots, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à la position experte d'un dactylographe. Un dactylographe qui ne regarde pas son clavier, qui a eu des cours de dactylographie, va poser ses doigts et saura qu'il a ses doigts posés sans même regarder son clavier. Là, je savais que j'avais la main gauche qui était bien posée, la main droite qui était mal posée. Parce qu'on sent ces deux petits ergots. Et une fois qu'on sent ces deux petits ergots, lorsqu'on a subi ou effectué un entraînement à la dactylographie, après, il n'y a plus besoin de bouger. Tout se fait à partir de cette position. On monte en haut, on descend en bas. Et on écarte un petit peu les doigts pour les lettres du milieu. Tous les claviers, y compris normalement vos claviers des anciens, alors les Blueberry, je crois que c'est des Blueberry, ces smartphones, normalement tous les claviers ont ces touches-là. Et regardez le résultat du clavier de Dvorak. En anglais, 70% des frappes et 3000 mots qui sont faites uniquement avec les touches de repos, c'est-à-dire avec la ligne du milieu. Regardez ce que j'ai mis entre parenthèses. Pour un clavier QWERTY, c'est 30% des frappes et seulement 300 mots. Vous pouvez imaginer ce que ça change pour un rédacteur, pour un auteur, d'utiliser un clavier dans lequel il va, de façon maximale, utiliser uniquement la touche du milieu. Il n'aura pas à monter ni à descendre. Il aura uniquement 10 touches, en gros, qui seront les touches les plus fréquentes. Il y a une petite anecdote aussi, c'est qu'on dit que le clavier QWERTY a aussi été organisé de cette façon-là pour que les commerciaux de Remington, puisque Remington, qui était le grand fabricant de machines à écrire, a, entre guillemets, piqué l'idée de la disposition du clavier à Scholl. Et vous pouvez remarquer que lorsqu'il faisait des démonstrations, on pouvait taper uniquement avec la ligne du haut le mot typewriter. Et donc il montrait, il s'était entraîné, l'anecdote dit que les commerciaux s'étaient entraînés à taper très très rapidement typewriter pour pouvoir faire une démonstration de la vitesse de frappe que l'on pouvait avoir avec une machine à écrire. Alors, est-ce que c'est de l'anecdote? Est-ce que c'est encore un mythe? En tout cas, il se trouve qu'effectivement, le clavier AZERTY QWERTY n'est absolument pas ergonomique, n'est pas adapté à votre façon de frapper, et encore moins à la langue française, puisque chaque langue a ses propres propriétés, ce qu'on appelle des bigrammes, c'est-à-dire les couples de lettres qui sont les plus fréquents, on les connaît. On connaît tous les couples de lettres qui sont plus fréquents, les trigrammes qui sont les plus fréquents, etc. On a des bases de données en psycholinguistique, en psychologie du langage, où on peut aller vérifier quels sont les mots qui contiennent des bigrammes les plus fréquents. Et on pourrait faire comme Dvorak, en fait c'est à partir de ça qu'a travaillé Dvorak, on pourrait réorganiser nos claviers. C'est un petit peu ce qu'a essayé de faire il y a 2 ans le gouvernement avec l'AFNOR lorsqu'ils ont établi des nouvelles normes pour les claviers français. Vous pourrez regarder nouveaux claviers français AFNOR sur Google ou sur Internet et vous trouverez la disposition des nouveaux claviers. Ce ne sont que des recommandations, donc d'ici à ce que les fabricants de claviers utilisent ces nouvelles normes, à mon avis, il va se passer des années. Mais vous pouvez acheter des claviers et peut-être, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais vous pouvez travailler vos claviers pour réassocier des touches. Normalement, tout clavier peut être programmé, vous pouvez associer des touches particulières. La différence, c'est qu'évidemment, les lettres sont sur les claviers. Il faudrait, dans ce cas-là, mettre des petits autocollants sur chaque touche. Bref. Il y a différentes façons d'utiliser un clavier, il y a des claviers plus ergonomiques, et nous, comme je l'ai dit, malheureusement, nous n'avons pas le clavier le plus ergonomique. Alors, face à ce clavier qui n'est pas ergonomique, pourtant nous apprenons à écrire, et nous pouvons être très efficaces. Le dernier record qui a été fait dans un concours de frappe a été de 250 mots à la minute, avec un clavier spécialisé, mais c'est 250 mots à la minute. Avec un clavier normal, je crois que le record est monté à 145 mots à la minute. Un dactylographe expert actuellement tape à peu près 70 mots, 80 mots à la minute. Donc vous pouvez imaginer ce que ça fait de tripler la cadence d'écriture. Alors ce sont des gens qui font des concours, qui sont habitués, qui ont des claviers, qui passent des heures et des heures à aller vite, aller vite. Mais il n'empêche que cette question nous pose, ce point nous pose question, nous les psychologues. Est-ce que ça change d'un point de vue des opérations mentales que l'on met en œuvre? Est-ce que ça change ce que l'on fait lorsqu'on est face à un clavier qui n'est pas adapté? Et puis, de façon plus générale, est-ce que ça change d'utiliser un clavier plutôt qu'un papier-crayon? Et plutôt qu'un stylo. On va commencer par regarder une étude qui a été faite par des collègues Jean-Luc Velay et Marie Cloncan de Marseille. On peut se réjouir que ce sont des Français qui ont fait ces travaux, qui sont maintenant réputés internationalement, qui sont les plus cités. Pour une fois, on a des Français qui ont fait ce travail-là. Et vous avez une image du cerveau reconstituée, je le rappelle, ce n'est pas une photo du cerveau, c'est reconstitué avec tout un tas de traitements statistiques. D'accord ? Très complexe, très long, dont la plupart d'entre nous ne maîtrisons pas du tout les techniques. Donc ce n'est jamais une photo, toutes les images du cerveau que vous voyez ne sont jamais des photos du cerveau. C'est simplement des données qui ont été collectées et qui sont reconstruites en 3D sur un volume de cerveau qui est à peu près le même pour tout le monde en plus. Donc ne pensez pas que vous voyez le cerveau en train de fonctionner, on reconstruit le cerveau, l'image du cerveau. Vous avez en haut, ligne supérieure, une imagerie du cerveau en train, à gauche, de lire, à droite, en train d'écrire. Et vous avez dans la ligne inférieure le même cerveau en train de lire et en train d'écrire, mais cette fois-ci en haut des lettres, Z et D et leurs lettres en miroir, et en bas des signes qui ne sont pas des lettres. Ce que vous pouvez remarquer, c'est la petite zone, est-ce que vous allez voir? Non, c'est pas grave. C'est la petite zone en haut à gauche qui est entourée. C'est une zone qui s'affiche lorsqu'on lit ces lettres, lorsqu'on reconnaît ces lettres. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on écrit, cette zone-là est aussi activée. Pardon, je dis l'inverse, excusez-moi. Lorsqu'on écrit, cette zone est activée, c'est la zone motrice, excusez-moi, ce qui est tout à fait normal, ici, une zone prémotrice de ce côté-là du cerveau, qui s'active puisqu'elle coordonne les gestes, mais lorsqu'on lit les lettres, cette zone est aussi activée. Vous remarquerez que cette zone n'est pas activée lorsqu'on lit des signes qui ne sont pas des lettres. Alors que bien sûr, les ondes prémotrices sont aussi activées lorsqu'on les produit, ce qui est normal puisqu'on fait un mouvement. Donc le cerveau commande nos muscles et donc la zone prémotrice va s'activer. En revanche, lorsqu'on lit ces lettres, elle ne s'active plus. Que disent les collègues ? Probablement, c'est ce qu'on appelait la théorie des neurones miroirs, entre autres, la théorie aussi de la cognition incarnée, ça renvoie à probablement des concepts que vous connaissez, c'est que lorsqu'on voit les lettres, on simule l'écriture. Mentalement, on simule le geste d'écriture lorsqu'on est en train de voir des lettres. Et retenez cette idée parce que vous allez voir l'importance que ça peut avoir pour la suite. Toujours ces mêmes collègues, les graphiques sont très complexes, mais c'est très très simple à les lire, je vais vous aider à les lire, ne vous inquiétez pas. La même chose, la même étude, chez des enfants qui n'ont pas encore commencé à écrire. Donc pour nous, probablement, si je me souviens bien, je pense que ce sont des enfants qui sont encore à l'école maternelle. Je vois mon collègue, puisqu'il les connaît bien aussi, en grande section. Qui sont en grande section ? C'est preschool children. Donc je pense que c'est plutôt en maternelle, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils vont leur faire apprendre des lettres, qu'ils vont apprendre soit en les écrivant manuellement, soit en les tapant au clavier. Donc c'est très simple, deux groupes d'enfants. Un premier groupe qui va apprendre des lettres en les tapant sur un clavier et un autre qui va apprendre à les écrire. Et ce que l'on observe, que les enfants soient d'un niveau, la partie de gauche, moyen, ou d'un niveau, pardon, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient âgés, lorsqu'on regarde le groupe de niveau moyen, on s'aperçoit qu'au moment du pré-test, c'est-à-dire avant qu'ils aient eu l'entraînement, on ne distingue pas trop leur reconnaissance des lettres. Ils reconnaissent de la même façon les lettres écrites que les lettres tapées. Ils les ont simplement tapées que quelques fois, ils n'ont pas encore subi d'entraînement. Et ensuite, ils sont entraînés. Et ils ont des séances d'entraînement où ils tapent ou ils écrivent. Et on s'aperçoit, vous regarderez que l'écart, en particulier chez les enfants les plus âgés, les older, ce qui est ici older, donc sur la partie droite de chacune des cases, vous remarquerez l'écart qu'il y a dans la reconnaissance entre les lettres écrites et les lettres tapées. Et les enfants, en début d'école primaire, reconnaissent beaucoup plus facilement les lettres qu'ils ont écrites à la main que celles qu'ils ont tapées sur un clavier. On peut déjà commencer à voir l'avantage de l'écriture manuelle. On continue. La même étude, avec des adultes, à partir d'un alphabet, je crois que c'est un alphabet cambodgien, si je me souviens bien, qu'ils avaient utilisé, donc qui n'était pas connu par aucun des participants. Et encore une fois, à peu près la même idée. On sépare les adultes en deux groupes. Un groupe qui va apprendre à tracer ses lettres, soit avec un stylo, soit en utilisant un clavier adapté à cette écriture-là. Et ensuite, après ces séances d'entraînement, vous avez W0, c'est la semaine 0, le pré-test, juste avant les séances, une semaine après et trois semaines après. Et vous remarquez que trois semaines après, les adultes qui ont appris les lettres de façon manuelle ont une meilleure reconnaissance que ceux qui l'ont appris de façon frappée, clavier, dactylographique. Que concluent les collègues ? C'est que probablement que l'écriture manuelle donne une représentation plus stable en mémoire au cerveau de la nature des lettres. Alors attention, ne pas conclure de suite que c'est simplement une mémoire du geste. On est loin de ces interprétations-là en psychologie. Le geste intervient, mais ce n'est pas un souvenir du geste. Le geste intervient et permet de créer une trace en mémoire qui est beaucoup plus sélective. C'est ce qu'on appelle l'encodage sélectif. Autrement dit, une lettre en mémoire, entre une différence entre un A et un B écrit à la main est beaucoup plus différente qu'une lettre entre un A et un B frappé au clavier. Parce qu'entre un A et un B, c'est le même geste, si ce n'est que la localisation est différente sur le clavier. Donc ce n'est pas une mémoire du geste, c'est simplement qu'avoir un geste précis permet d'avoir une trace qui est beaucoup plus différente des autres et qui est donc beaucoup plus reconnaissable, tout simplement. On ne parle pas du tout en psychologie actuellement de mémoire des gestes pour l'écriture manuelle. Or, c'est une interprétation qu'on voit très souvent dans les blogs des enseignants, dans les cours des enseignants, dans les conférences des enseignants qui essaient de vulgariser ces travaux. Ce n'est pas une question de mémoire des gestes. D'accord ? C'est vraiment une question de spécificité en mémoire de la représentation des lettres. Les lettres sont beaucoup plus différentes des autres lorsqu'on a appris à les tracer. On s'aperçoit par ailleurs que lorsqu'on fait apprendre des lettres à des jeunes enfants, si on leur présente la lettre écrite au tableau à un groupe, qu'un autre groupe on présente la lettre écrite au tableau avec des flèches qui indiquent la direction des traits, et qu'à un troisième groupe on présente la lettre en train de s'écrire en temps réel, un film qu'on a pu faire de l'écriture enregistrée d'une vraie personne, c'est-à-dire avec la dynamique du mouvement, qui est typique, le mouvement humain est typique, a des traits caractéristiques que vous reconnaissez tous, vous ne savez pas, mais vous reconnaissez tous. On pourrait vous présenter un trait qui est en train de se faire, une courbe qui est faite soit par un ordinateur, soit qu'on a enregistré un être humain, et vous pourriez dire ça c'est l'être humain, parce qu'il y a des caractéristiques physiques à votre mouvement que vous reconnaissez. Et donc, effectivement, c'est probablement là ces questions-là qui interviennent. Et les enfants qui ont eu ces trois types d'entraînement, ceux qui apprennent plus facilement l'alphabet, sont ceux qui ont vu, qui écrivent mieux, qui apprennent l'alphabet, pas en termes de mémorisation, mais qui apprennent mieux à écrire l'alphabet, sont ceux qui ont vu la dynamique de l'écriture, la dynamique du mouvement humain. Donc, on voit bien encore que lorsqu'ils voient cette dynamique du mouvement humain, l'hypothèse, c'est que ça résonne avec ce qu'ils font et que ça continue à renforcer leur propre représentation motrice de la lettre. Alors, écrire avec un clavier, pour essayer de commencer à synthétiser un petit peu. Lorsqu'on écrit avec la main, c'est une activité motrice très fine, très très fine. Réfléchissez à ce que vous faites, prenez un cahier CIS, il y a à peu près un millimètre d'espace, c'est ce que vous êtes capable de faire dans un millimètre d'espace, les différentes courbes que vous êtes capable de faire. La dactylographie, c'est une motricité beaucoup plus simple. En revanche, c'est bimanuel, donc ça va demander une coordination. Par ailleurs, la dactylographie n'est pas apprise de façon formelle. Nous avons, la plupart d'entre nous, appris à écrire sur un clavier, à taper sur un clavier, comme ça, tout seul. Il suffit de regarder la façon dont chacun d'entre nous croise ses mains, ses doigts, un doigt, deux doigts, trois doigts, pour comprendre qu'effectivement, c'est à peu près aléatoire la façon dont on apprend à écrire. Alors que vous voyez qu'à l'école, on apprend pendant des années à tracer les lettres. Et en fait, on n'apprend pas pendant des années à tracer les lettres, on apprend pendant des années avant à tracer des premières formes, des courbes, et ensuite on passe aux lettres. Et il faut à peu près compter, on commence en maternelle à tracer les premiers traits, et il faut compter que l'écriture est automatisée, c'est-à-dire ne demande plus d'attention, environ vers 12-13 ans. Donc il y a à peu près 6 ans d'apprentissage pour que ce soit complètement automatisé. On a certains travaux qui ont montré même encore un coût cognitif, donc une charge mentale de l'écriture chez des enfants à 14 ans. Donc c'est très très long. Et pourtant c'est enseigné. Donc imaginez ce que c'est avec un clavier qui n'est pas enseigné. Quand est-ce, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on atteint ce niveau d'automatisation avec un clavier qui est le même que celui qu'on a avec l'écriture manuelle? Et puis, quelque chose qui est fondamental, et ça c'est lié à l'ordinateur, et je commence à intégrer un petit peu de la complexité de l'outil, c'est que lorsque vous frappez sur un clavier, si vous n'êtes pas un expert, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le clavier, et vous ne regardez plus votre texte. Lorsque vous êtes en train d'écrire avec un stylo, votre texte est systématiquement devant vos yeux. Et vous savez qu'on ne voit pas que l'endroit où pointe le stylo, on a une vision périphérique qui nous permet de traiter une zone du texte. Autrement dit, quand on est un rédacteur qui n'est pas habile au clavier, on passe facilement, et on l'a montré, plus de 50% de son temps à ne pas regarder le texte qu'on est en train d'écrire. Alors que lorsqu'on écrit au clavier, on passe quasiment 100% du temps à regarder le texte qu'on écrit. Un autre phénomène qui peut créer des changements, évidemment. Et puis surtout, des touches qui ne correspondent pas à ce qui apparaît à l'écran. Alors vous allez me dire, mais bien sûr que si, il y a un A, et quand j'appuie sur la touche A, ça fait un A. Oui, sauf que le A que vous avez, c'est un A en script majuscule. Imaginez que vous utilisiez la police Calibri. Ou Times New Roman. La forme de la lettre que vous avez en face ne correspond pas du tout au A que vous avez sur votre clavier. Donc vous devez déjà avoir une connaissance et maîtriser cette connaissance pour savoir que lorsque vous allez taper cette forme-là, ça peut faire un A complètement différent, puisque le A qui est sur le clavier, c'est le A comme ça. Mais il peut y avoir des A dans votre sens, il peut y avoir des A avec une courbe en haut, puis un rond. Le A est d'ailleurs souvent pris pour la variabilité, comme exemple de la difficulté d'écriture des lettres, puisqu'il y a plusieurs formes de A possibles. Donc vous voyez la difficulté du clavier. Alors la question qu'on s'est posée avec Cyril Bourga, qui est ici, qui fait sa thèse avec moi, c'est effectivement, est-ce que la frappe au clavier est suffisamment automatisée? En tout cas, est-elle autant automatisée que l'écriture manuelle? Et surtout, si elle n'est pas autant automatisée, ce qu'on appelle un processus automatique en psychologie cognitive, c'est un processus qui se déroule de façon complètement automatique, c'est-à-dire hors de la conscience. Un exemple de processus automatique, 3 fois 2, vous avez déjà la solution. Et vous pourriez faire quelque chose. La conduite. Lorsque vous avez appris à conduire, vous pouvez conduire et puis avoir une discussion. Plus ou moins élaborée, évidemment, la discussion, d'accord? Mais vous pouvez conduire. Souvenez-vous, vos premières sessions à l'auto-école, il était hors de question de discuter, voire même de tourner l'œil de ce côté pour regarder le moniteur. Donc un processus automatique, c'est un processus qu'on entraîne, qui se retrouve dans un environnement cohérent, et à force de répétition, va s'automatiser, ne va plus demander de ressources mentales. Il va libérer des ressources pour l'activité en cours. C'est pour ça qu'on apprend aux enfants, en premier, à tracer les lettres, Donc l'école, pour ceux qui connaissent, on apprend à promis aux enfants à tracer les lettres pour que leurs ressources cognitives puissent passer à autre chose de plus important pour l'écriture. Et ensuite, on passe à l'acquisition de l'orthographe pour les libérer des aspects mécaniques. D'abord la trace, ensuite l'orthographe. Et enfin, on leur apprend à planifier, à choisir le langage, à réviser un texte. Mais une fois que tous ces aspects mécaniques et secondaires pour la qualité de l'expression écrite sont automatisés. Donc la question qu'on s'est posée avec Cyrine Bourriga, c'est celle-là. Est-ce que c'est autant automatisé que l'écriture manuscrite? Et si c'est moins automatisé, puisque nous avons des ressources cognitives qui sont limitées, des ressources mentales qui sont limitées, si c'est moins automatisé que le papier crayon, lorsque vous êtes dans une situation d'écriture, la surcharge, en quelque sorte, qui va être créée par le clavier, va prendre des ressources mentales au détriment de ce que vous auriez pu faire dans une situation où l'écriture aurait été automatisée. Vous aurez donc probablement moins de ressources mentales pour penser au contenu du texte que vous voulez écrire. Et on s'est posé cette question. Et on a essayé de trouver des moyens de montrer ça expérimentalement, puisqu'on fait de la psychologie expérimentale. Et on a utilisé effectivement des techniques qui nous permettent d'une part de mesurer l'effort cognitif, et d'autre part de mesurer l'impact que ça peut avoir sur une tâche en cours. Alors l'effort cognitif, c'est très simple. C'est le coût cognitif, c'est la charge mentale qui est liée à une activité que vous êtes en train de mettre en œuvre. Par exemple, il est beaucoup plus coûteux de prendre des notes, comme sont en train de le faire ici ces demoiselles, que de copier un texte. Pourquoi ? Parce que copier un texte, vous prenez une information et vous la transcrivez. Prendre des notes, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me comprendre, vous êtes en train probablement de synthétiser un peu ce que je dis, de le retranscrire. Donc la charge mentale, vous connaissez à peu près tous le concept de charge mentale, de toute façon, actuellement on parle beaucoup de la charge mentale de la femme. Donc l'idée c'est, voilà, c'est la quantité de ressources cognitives, la quantité d'attention que va nous demander l'activité. Et on a des techniques pour mesurer ça. C'est très simple en fin de compte. On fait faire une activité, et pendant qu'on fait cette activité, on envoie des bips, et le sujet, il a une petite presselle dans la main, et chaque fois qu'il entend un bip, il a pour consigne d'appuyer le plus rapidement possible sur ce bip. Imaginez la situation très simple, je vous mets dans une salle, une petite salle, un box expérimental, pas de fenêtre, rien, une lumière douce, vous êtes à peu près dans un environnement plus ou moins relaxant, vous entendez des bips qui arrivent de façon aléatoire, et chaque fois vous appuyez. Et puis on mesure votre temps de réaction. Globalement, on obtient 150-200 millisecondes, parfois un peu plus. Et puis maintenant, on va faire la même chose, ces mêmes sujets, ces mêmes participants, on va leur demander juste après de rédiger un texte, par exemple, et ils auront toujours les mêmes bips. Vous imaginez ce qui va se passer. Imaginez que je vous demande de répondre à des bips pendant que je vous demande de faire 12 fois 13. Et qu'il y a des bips et vous devez toujours être le plus rapide possible. On va observer une augmentation du temps de réaction. Tout simplement. Et c'est l'augmentation du temps de réaction qui va être un indice de la charge cognitive. Et bien, on a appliqué cette technique qu'on utilise depuis très longtemps. En psychologie, ça va faire au moins 60 ans qu'on l'utilise. Les temps de réaction sont utilisés depuis plus d'un siècle. Donc on a une théorie, on a des articles, on a des bouquins là-dessus. Ce sont des méthodes validées. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement mesuré la charge cognitive de rédacteurs qui étaient en train de copier un texte. Et on ne leur a même pas demandé de rédiger. On a simplifié la tâche. Donc on a réduit finalement les demandes de la tâche principale, une tâche de copie, et ils avaient des temps de réaction, ils avaient des bips, et ils devaient réagir le plus rapidement possible. Et on a mesuré la durée des temps de réaction. Et vous avez le résultat. Vous remarquez que les temps de réaction sont beaucoup plus courts lorsqu'on est en train de copier le même texte. Évidemment, c'est exactement le même texte. Présenté de la même façon, rien ne change. La seule chose qui change, c'est la méthode d'écriture. Soit un clavier, soit un stylo. Et dans ce cas-là, lorsqu'on frappe au clavier, le coût cognitif, la charge mentale est plus importante pour le rédacteur. On s'est dit donc, utiliser un clavier, je n'ai pas précisé les participants sont des étudiants de première année à l'université. Donc des étudiants qui pratiquent probablement depuis 10 ans le clavier minimum, qui ont déjà une certaine expertise au clavier, qui sont probablement comparables à nous. On n'est pas chez des enfants, on est vraiment chez des gens qui ont une pratique. Et on est sur une génération d'étudiants, ce qu'on appelle les millennials, ou ce qu'on appelle aussi les digital natives, ceux qui sont nés en quelque sorte avec un clavier dans les mains. Qui donc, quand je dis 10 ans, probablement que c'est bien plus. Et donc, on voit bien que c'est plus coûteux. On s'est dit, mais si c'est plus coûteux, ça va prendre des ressources à notre activité. Si c'est pendant que je suis en train de faire quelque chose que ça nécessite le clavier, je vais avoir moins de ressources. Et on a eu une idée très simple, on n'est pas allé dans l'écriture, on y a dit, on va faire une tâche de mémoire. On va demander à des étudiants de première année de mémoriser des suites de chiffres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. Et on va simplement regarder le nombre de mots qu'ils rappellent. Et bien sûr, pour le rappel, on leur a demandé soit de rappeler les mots de façon manuelle, soit de rappeler les mots de façon dactylographique. Un résultat très intéressant. Lorsqu'on regarde les groupes de 4 à 7 mots, il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'on regarde les groupes de 8 à 9 mots, c'est-à-dire que les participants devaient mémoriser 8 à 9 mots, on observe une différence. Et le rappel est moins bon, vous l'avez en bleu ciel dans la partie droite. C'est ce qu'on appelle significatif statistiquement. Donc ça, c'est des outils scientifiques pour pouvoir décider que l'on peut dire qu'il y a une différence. Donc là, on peut dire qu'il y a une différence, on ne prend pas de risque en disant, un très faible risque, en disant qu'il y a une différence pour les très gros blocs, c'est-à-dire lorsqu'on a une grosse, lorsque l'activité principale est très coûteuse. Lorsque l'activité principale est très coûteuse, eh bien en fait, si on utilise un clavier, on va détériorer l'activité principale, puisqu'on le voit bien que dans une tâche de mémoire, on rappelle moins de mots lorsqu'on utilise un clavier que lorsqu'on utilise un crayon. Alors pourquoi est-ce qu'on a posé cette question? En particulier parce que Cyrine est intéressée par l'éducation. Et vous savez que l'écriture est l'outil transversal de l'éducation. On prend des notes, on rédige, on a des examens. Tout passe par l'écrit, quasiment tout passe par l'écrit. Or la question c'est de se dire, mais si on écrit, on prend des notes et on doit faire des activités d'écriture qui vont demander le clavier, mais que le clavier est plus coûteux, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur l'acquisition et sur les apprentissages? On n'est pas allé sur des situations d'apprentissage, on est resté dans des situations très contrôlées, expérimentales, de laboratoire, on va dire. Mais on voit déjà que sur une simple tâche de mémorisation de chiffres, une mémorisation de mots, il y a déjà un impact. Imaginez si en plus on est en train d'apprendre des concepts élaborés. Alors, vous avez vu que le clavier, déjà, ça pose des véritables questions. Mais on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on a parlé uniquement de l'impact sur le clavier. Que se passe-t-il lorsque je rédige un texte? Et lorsque je rédige un texte, certes, vous utilisez un clavier, mais vous utilisez aussi un écran. Et, au-delà de l'écran, un logiciel. Et finalement, ces trois dimensions de l'outil peuvent avoir un impact différent. Le clavier, l'écran et le logiciel. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur les logiciels. Je vais vous montrer quelques travaux sur la rédaction et un rapidement sur la prise de notes et la question des écrans. On va commencer déjà par l'écran. Et surtout du format de présentation. Vous inquiétez pas, je vais simplifier. Parfois, ça peut paraître un petit peu complexe, mais je vais systématiquement simplifier ce que je vous présente. C'est une collègue aixoise avec qui j'ai fait ma thèse, d'ailleurs, qui a travaillé à cette question-là. Et qui s'est posé la question du format de présentation que le logiciel propose. Vous savez que lorsque vous utilisez Word, par exemple, vous avez plusieurs modes. Le mode page, le mode brouillon. À l'époque, il y avait deux modes principaux. Le mode page, c'est-à-dire lorsque la page est délimitée sur l'écran. On voit les zones. Et puis le mode rouleau. Autrement dit, on ne voit pas les pages défiler. On descend, tout simplement. La question qui est posée ici, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on écrit un texte, le fait de voir les limites d'une page, ça peut nous aider? Et ces auteurs ont posé deux questions. Première question, c'est le tableau du haut. Est-ce qu'on retrouve plus facilement une information qu'on a écrit dans un texte lorsqu'on a écrit dans un texte avec un traitement de texte qui permet d'afficher les pages délimitées ou un rouleau? Vous pouvez regarder le chiffre tout simplement. Vous avez ici le nombre de lignes d'écart par rapport à l'information qu'on demandait de retrouver. En gros, l'expérience est très simple. On demande à un sujet d'écrire un texte. Après, on prend son texte, on extrait un mot et on lui demande est-ce que tu te souviens ou d'où tu as écrit le mot. Il y a eu déjà des travaux là-dessus. On l'a fait aussi à Poitiers. Ici, ça marche très bien. On a en fait un souvenir implicite de l'endroit où on écrit les mots. Or, vous pouvez remarquer qu'il y a... Lorsqu'on voit par page, et vous pouvez regarder que la ligne, je ne rentrerai pas dans le détail, que la ligne du haut, lorsqu'on voit par page et que les bordures, les quatre bordures sont marquées, il y a un écart de 6 lignes. En revanche, lorsqu'on est sur un rouleau, il y a un écart de 11 lignes. Autrement dit, on se trompe de 5 lignes supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on a une plus mauvaise représentation mentale du texte qu'on a écrit, de l'endroit où on a écrit, des informations qu'on a écrites. Alors, lorsqu'on écrit un texte de 20 lignes, on peut se dire que ça n'a pas de problème. Mais si on écrit une thèse, par exemple, ou un bouquin, et qu'il faut rechercher une information, combien de temps on va passer pour la retrouver, l'information? Et est-ce qu'on n'aura pas oublié ce qu'on voulait rajouter ou réviser quand on va retrouver, finalement, la localisation? Et puis, vous pouvez regarder le tableau du bas. c'est le nombre d'erreurs qui ont été corrigées. Alors, vous avez des erreurs de surface, c'est-à-dire des erreurs d'orthographe, et puis en dessous, des erreurs de cohésion, c'est-à-dire comment les informations sont liées dans le texte, pour être rapide. Et vous avez encore la colonne avec le chiffre, lorsque c'est présenté en mode page, et lorsque c'est présenté en mode scrolling, en mode rouleau. Et vous voyez qu'il a besoin de beaucoup plus de correction pour arriver à un texte de même qualité lorsqu'on écrit avec un mode rouleau que lorsqu'on écrit avec un mode page. Tous les travaux qui ont été réalisés avec cette question-là considèrent maintenant que la visibilité de la page est fondamentale pour la rédaction parce que ça constitue une unité de mémorisation du texte que l'on est en train d'écrire. Or, lorsqu'il y a un rouleau, il n'y a plus cette unité. Vous savez que vous avez écrit avant ou après. Sur une page, vous avez écrit avant, après, en haut ou en bas de la page. Et vous perdez a priori une information qui est fondamentale. Alors, vous allez me dire, mais c'est des petits points, des petites choses. Mais il se trouve que non. Il se trouve que non, parce que probablement, dans toutes les théories qui sont actuellement en train d'émerger sur l'utilisation d'un ordinateur, l'ordinateur perturbe la représentation mentale du texte qu'on écrit. Et donc, il faut faciliter le souvenir, la représentation mentale, c'est le souvenir que l'on a du texte que l'on a écrit. Alors, chez les enfants, que se passe-t-il? C'est un collègue, Vince Connelly, qui a fait ça à Oxford University, et qui a posé la question de l'apprentissage, de la rédaction par des enfants avec un ordinateur au papier crayon. Vous avez déjà, vous pouvez suivre les courbes, en gros, les deux courbes du nombre de lettres écrites en 2 minutes, selon que les enfants utilisent un ordinateur ou utilisent un clavier ou utilisent un stylo. Et la courbe du haut, c'est celle manuelle. Les enfants écrivent plus rapidement, contrairement à ce qu'on peut le croire, les enfants écrivent plus rapidement avec un papier qu'avec un ordinateur. Et quand l'on prend maintenant le nombre d'années, cette différence ne se rapproche pas, mais a plutôt tendance à augmenter. Alors après, chez les adultes, ça va s'inverser. Très intéressant, chez les adultes, ça va s'inverser. Mais en tout cas, pendant l'apprentissage, il y a toujours en termes de vitesse un avantage à l'écriture manuelle. On ne sait pas encore exactement à quel âge ça se croise, il n'y a pas encore eu ces travaux qui ont été faits. Ça serait bien d'avoir vraiment quelque chose de longitudinal, ou en tout cas sur un très grand empendage, pour voir quand est-ce qu'a priori ça se croise. On ne le sait pas, mais on sait que chez les adultes, c'est l'inverse. Donc on sait que ça se croise à un moment donné. Et puis, il est allé regarder des indices du texte, de la qualité des textes. Alors la qualité des textes, ne me posez pas là maintenant la question de comment on l'évalue. On a des dizaines d'indices qui sont disponibles. Les auteurs ne prennent pas les indices qui les intéressent quand on fait une recherche expérimentale. Ils ont une théorie, ils font une hypothèse, et cette hypothèse dit qu'il devrait y avoir un effet sur cette dimension-là, cette dimension-là, cette dimension-là, et on va vérifier ce qu'on observe sur la dimension. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des endroits où il y a des différences. On fait l'hypothèse qu'il y a une différence, et on va vérifier si la différence qu'on attendait, qu'on avait prédite, est là. Et vous pouvez remarquer que de façon globale, j'ai enlevé les 6 ans, parce que ça complexifie le tableau, ce n'est pas la peine, vous avez dans la colonne de gauche des indices, même si vous ne savez pas quoi ils relèvent, c'est pas grave, vous pouvez simplement regarder la nature de l'indice, le nombre. Vous avez la colonne de gauche lorsque c'est écrit à la main et la colonne de droite lorsque c'est écrit au clavier. Globalement, pour tous ces indices, plus le score est haut, mieux c'est. Vous observez que chez les enfants, systématiquement, tous les indices sont inférieurs et la plupart sont significatifs statistiquement. Donc on peut dire qu'ils sont inférieurs chez les enfants lorsqu'ils écrivent un texte via un ordinateur. Ce qui est très intéressant, on l'a fait avec des collègues portugais, tiens, j'aurais pu le mettre d'ailleurs. On a fait la même chose, on a observé à peu près la même chose, mais cette fois-ci, dans une deuxième tâche, une deuxième période, on a récupéré les mêmes enfants, on leur a demandé non plus de frapper leur texte au clavier, mais de dicter à un adulte qui avait un clavier. Et eux pouvaient voir ce qui se passait à l'écran. Et d'un seul coup, la qualité de leur texte a rejoint celle de ceux qui écrivent avec papier crayon. Autrement dit, chez des enfants, quand on leur demande de dicter, qu'on enlève le coût cognitif justement de la frappe au clavier, leurs textes redeviennent sensiblement équivalents à ceux des enfants qui écrivent avec un papier crayon. Je vous laisse réfléchir à ce petit résultat. Un travail qui a encore été fait chez des enfants par Carol Christensen, une collègue australienne, elle a regardé la qualité des textes et vous voyez de façon surprenante, elle n'observe pas de différence, elle. Alors vous voyez que d'une étude à l'autre, ça peut varier, ça c'est des questions scientifiques, on a toujours ces difficultés-là. Quand on présente ça au grand public, on se dit, mais on va montrer un endroit où ça varie dans un sens, et puis on va montrer les résultats inverses. On peut probablement expliquer ces résultats, ou en tout cas, ça nous pose de nouvelles questions, donc on n'est pas embarrassé par ces résultats divergents, nous. Parce que généralement, ça stimule au contraire notre curiosité de scientifique. Et là, on se dit, ah bon, il faut aller voir ça, et donc on continue à travailler. Mais vous voyez qu'elle n'observe pas de différence de qualité entre les deux. Dans une seconde étude, elle a pris des enfants, elle a mesuré la qualité de leur texte, en début, ce qu'on appelle le pré-test, et puis ensuite, ils ont eu plusieurs semaines d'apprentissage du clavier. Et elle a regardé, chez ces mêmes enfants, la qualité de leur texte. Et vous regardez en bas, la courbe de droite, la barre de droite, elle est supérieure en post-test qu'en pré-test. Autrement dit, une fois qu'on a pas automatisé, mais qu'on a rendu plus automatique la frappe au clavier, effectivement, les textes sont de meilleure qualité chez les enfants. Très rapidement, c'est un grand tableau, mais c'est aussi dans la thèse de Cyrine Bourriga, vous pouvez remarquer que de façon générale, tous les indices en gras sont dactylographiques et sont généralement plutôt négatifs. Sauf pour certains points qui sont très importants. Le débit, c'est-à-dire le nombre de mots par seconde, on est plus rapide au clavier. Ça, c'est clair et net. Chez les adultes, maintenant, c'est démontré, on est plus rapide au clavier. On écrit aussi des textes plus longs. En revanche, il y a plus de fautes d'orthographe. Les phrases contiennent plus de mots. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, les phrases contiennent plus de mots. On pose beaucoup plus longtemps. Le double. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les pauses? On a des logiciels. Si vous avez participé à l'exposition, si vous avez regardé les expositions, on a un petit film qui montre un logiciel qu'on utilise, IonPen, qui enregistre l'écriture sur tablette graphique. Et après, on analyse les pauses, les vitesses, les pressions, etc. Et quand on analyse la durée de pause, on s'aperçoit qu'on passe plus de temps en pause lorsqu'on écrit au clavier. Et il y a aussi beaucoup plus de pauses. Ce qui veut dire que probablement les pauses sont plus courtes. Probablement. En tout cas, il y a beaucoup plus de pauses. On double presque le nombre de pauses. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'interrompre presque deux fois plus lorsqu'on est au clavier. On a bien sûr enlevé toutes les pauses qui sont liées au changement pour atteindre une touche. Toutes ces pauses-là, on a des critères qui nous permettent de les éliminer. Donc là, on est vraiment sur les pauses qui ne concernent pas le déplacement des doigts sur le clavier. Mais vraiment des pauses liées au processus mental d'écriture. D'accord ? Pas à la position des doigts sur le clavier. Et ainsi de suite. Et en fait, systématiquement, ce qu'on observe, c'est cela, c'est que lorsqu'on demande à un adulte d'écrire avec un ordinateur, son écriture est beaucoup plus fragmentée. J'y reviendrai en conclusion. Beaucoup plus fragmentée, c'est-à-dire qu'on a besoin de poser. Et lorsqu'on pose, généralement, c'est soit parce qu'on doit préparer ce qui vient, soit qu'on doit réviser ce que l'on a déjà écrit. Si vous arrêtez d'écrire, d'accord ? Une pause, c'est quand on arrête d'écrire. Et donc si on arrête d'écrire, ça ne veut pas dire qu'on arrête de préparer son texte. Mais soit on le prépare, soit on revient. Or, par rapport au papier-crayon, on a besoin de deux fois plus de pauses. Ça signifie probablement qu'il y a quelque chose qui vient nous perturber. Sinon, on écrirait de façon beaucoup plus fluide, en quelque sorte. Le fait qu'il y ait plus de pauses, ça casse la fluidité de l'écriture. Ça casse, en quelque sorte, l'écriture qui suivrait le rythme de la pensée. Pour le dire peut-être simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la rédaction, et puis on va passer à la prise de notes. Alors la prise de notes, vous allez voir, c'est très délicat, parce qu'on est vraiment dans des résultats qui ne sont absolument pas cohérents et convergents, malheureusement. Toutefois, on va prendre ce résultat-là qui est très simple. On s'était intéressé cette fois-ci à la question de la taille de l'écran. On travaille avec Jean-François Rouet, ici, qui est aussi au CERCA, pendant la prise de notes. Alors c'était en 2000, je crois qu'on a publié ça en 2008... Donc on a dû faire ça en 2005, et je vous rappelle qu'en 2005, les écrans qu'on avait, quand on avait un 15 pouces, on était heureux. On avait plutôt des 13 pouces. Et la question du 13 pouces, c'est qu'on pouvait tout juste avoir une feuille à 4, mais si on voulait avoir à 4, il fallait la rétrécir. Or, lorsqu'on prend des notes à partir d'un texte qui est sur l'ordinateur, et qu'on a un petit écran, il faut sans arrêt alterner. Donc on a simulé ça. On a acheté à l'époque un très grand écran. On avait un groupe de participants qui prenaient des notes à partir d'un texte. Il y avait deux conditions, c'est la condition du haut. Soit ils avaient ils avaient les deux fenêtres simultanément, le texte à lire et la zone de notes, côte à côte. Soit il fallait qu'ils cliquent sur un bouton pour faire apparaître l'un puis l'autre. Autrement dit, on simulait un petit écran dans lequel il fallait les cliquer sur la fenêtre de notes, puis revenir en cliquant sur la fenêtre du document pour le lire, ainsi de suite. On a simplement mesuré l'effort cognitif, comme on l'a fait tout à l'heure avec des temps de réaction. Et on a été très étonnés. Parce que ce qui augmente, ce n'est pas la lecture, mais c'est bien le moment où lorsqu'on est en fenêtre alternée, en train d'écrire. C'est beaucoup plus coûteux d'écrire ces notes lorsqu'on est en fenêtre alternée plutôt que lorsqu'on est en double fenêtre. On n'a pas encore eu véritablement d'explication. On pensait que ce serait la lecture qui serait principalement affectée. Il se trouve que c'est le moment où on prend les notes. Donc vous voyez, de façon incidente, encore une fois, si vous avez deux fenêtres à l'écran, c'est beaucoup plus facile que si vous devez alterner entre les fenêtres. Pourquoi ? Ben parce que c'est très simple, d'un coup d'œil, vous regardez le texte, et hop, vous êtes là, vous pouvez noter. Alors que vous lisez le texte, vous cliquez, vous revenez et vous tapez. Et ce léger temps qu'il y a, et le fait que vous ne pouvez pas alterner du regard très rapidement, parce que si on ne l'a pas fait, mais il y a des collègues qui l'ont fait, lorsqu'on regarde les mouvements oculaires, eh bien lorsque les deux fenêtres sont activées, le regard n'arrête pas de faire ça. C'est-à-dire qu'on consulte très régulièrement le texte, et on revient sur les notes, et on repart et on revient, Et évidemment, lorsque les deux fenêtres ne sont pas côte à côte, qu'elles sont alternées, on a des plus gros moments de lecture. Parce qu'on veut s'économiser, on n'a pas envie de faire sans arrêt ça. Alors que lorsque les deux fenêtres sont là, donc en situation la plus écologique, la plus pratique, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de lire des grandes parties de texte. On lit un peu, on note, et on revient, etc. Donc on change en fait non seulement le comportement oculaire, mais en plus on augmente la charge cognitive. Alors, la question la plus importante, finalement, c'est celle qu'on va traiter ici. Vous voyez, la charge cognitive, c'est des questions pour scientifiques, des questions fondamentales, on essaie de les comprendre. Mais lorsqu'on prend des notes, c'est pour, généralement, en particulier dans le milieu étudiant, pour réussir. Et si on prend des notes, c'est pour mémoriser l'information. Et donc, quelques travaux ont essayé justement d'évaluer la mémorisation des notes à partir de notes prises en cours, soit papier-crayon, soit par ordinateur. Et il y a cette fameuse recherche, je dis bien cette fameuse recherche de Mueller-Oppenheimer, on dit fameux pour nous, parce que véritablement on a été étonné du retentissement qu'a eu cette recherche, une recherche américaine publiée dans une revue américaine, mais qui a été citée dans l'Express, dans le Nouvel Observateur, au journal de TF1, au journal de France 2. On ne sait pas pourquoi cette recherche a eu droit aux médias internationaux. Donc une recherche très très citée, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi elle a été citée. Ils se sont donc intéressés aux possibles avantages de la prise de notes papier-crayon versus ordinateur. Vous n'avez qu'à lire le titre. Vous avez déjà la conclusion, d'ailleurs, en lisant le titre. Le stylo est plus adéquat, plus intelligent, plus astucieux, plus vous voulez, comme vous voulez, que le clavier. Les avantages de la prise de notes papier-crayon sur le clavier. Donc vous connaissez déjà les conclusions de leurs travaux, à la lecture de leur titre. On va regarder quand même leurs résultats, vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme d'habitude, ils ont fait trois études. Donc, vous avez étude 1, étude 2, étude 3. Je vais résumer chaque fois. Là, je vous ai présenté des graphiques puisqu'ils présentaient trois études. Mais ils ont simplement pris un groupe dans lequel ils ont demandé de prendre des notes à partir d'une vidéo qu'ils voyaient sur un ordinateur. D'accord ? Soit avec un ordinateur, soit avec un papier crayon. Et ils ont regardé plusieurs indices. Premier indice qu'ils ont regardé, c'est le nombre de mots. Et ça confirme ce qu'on sait. Vous avez un gris clair, l'ordinateur. On le savait, lorsqu'on prend des notes sur ordinateur, on a tendance à noter beaucoup plus que lorsqu'on prend des notes papier-crayon. Alors on pourrait se dire, c'est un avantage. Et c'est ce que se sont dit les auteurs, c'est un avantage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi regardé ce qu'on appelle le coefficient de verbatim, c'est-à-dire la proximité entre les notes et le texte, mot à mot. Et vous pouvez voir qu'il y a une très grande proximité, alors le texte, pardon, le cours qui était dit par l'enseignant, qu'il y a une très grande, très forte proximité, beaucoup plus grande, en tout cas, plus grande avec l'ordinateur qu'avec le clavier. Ce qui confirme, effectivement, non seulement on écrit beaucoup plus avec un ordinateur, mais surtout, on écrit plus ce que dit l'enseignant. On note quasiment mot à mot ce que dit l'enseignant. Alors pour ceux qui enseignent, et c'est mon cas, c'est notre cas, on sait très bien que généralement les étudiants disent « Vous pouvez répéter, monsieur ?» Alors évidemment, l'université, vous savez comment c'est, on répond « Ah mais excusez-moi, je viens d'improviser. Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit. » Alors souvent on dit « Redis-nous le début de la phrase et ça revient. » Mais effectivement, les étudiants qui prennent des notes par ordinateur veulent tout copier, tout noter, et de la façon dont c'est dit par l'enseignant. Ce serait rassurant, et c'est clair et net, c'est rassurant, puisqu'il va falloir réviser dans quelques semaines, qu'il y aura un examen dans quelques mois, il vaut mieux avoir tout ce qu'a dit l'ordinateur. A priori, il vaut mieux avoir tout ce qu'a dit l'enseignant. Or, ce n'est pas le cas. Les travaux sur la prise de notes papier-crayon ont montré qu'on mémorise beaucoup mieux quand on a une prise de notes qui est synthétique, plutôt qu'une prise de notes verbatim. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous prenez des notes de façon verbatim, vous n'êtes, excusez-moi, qu'un enregistreur. Et encore, ça rentre et ça ressort par la main. Or, si vous avez une prise de notes synthétique, vous êtes obligé de faire un effort de conceptualisation, c'est-à-dire de compréhension, de synthèse, de réduction et de reformulation. Et ce travail-là, il équivaut déjà à un travail de révision. Je le dis souvent, c'était une remarque qu'on m'avait faite dans une conférence que j'avais donnée, je ne sais plus, c'était à Poitiers ou à Montpellier. On m'avait dit, mais finalement, Noter, c'est lire deux fois, ou écouter deux fois, oui. Mais si on le fait de façon synthétique. Or, ça a été montré, papier-crayon, que les étudiants, qu'ils font de même, ou lorsqu'on les incite à apprendre de façon verbatim, ont une moins bonne mémorisation que les étudiants qui ont une mémorisation, pardon, qui ont une prise de notes, une de notes synthétique. Or, comme je viens de vous le montrer, l'ordinateur conduit plutôt à une prise de notes synthétique. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant en termes de rappel des informations. Et ces auteurs ont analysé deux types d'informations. Les informations factuelles, c'est-à-dire celles qui étaient données par l'enseignant. Par exemple, si l'enseignant dit que, je ne sais pas, la psychologie cognitive est une psychologie qui domine le champ de la psychologie scientifique. C'est factuel, c'est donné. Et puis une question inférentielle, c'est-à-dire à partir de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pouvez comprendre ou inférer ? Peut-être comprendre que ben, la psychanalyse n'est pas le champ dominant de la psychologie scientifique, par exemple. Je dis bien scientifique, pas d'attaque de la psychanalyse ici, mais c'est juste pour donner un exemple d'inférence que l'on peut faire. Et ils se sont posé des questions sur combien d'informations factuelles et combien d'informations conceptuelles ou inférentielles on pouvait rappeler. Voilà les résultats pour deux études. À gauche, l'étude 1. À gauche, l'étude 2, dans lequel ils ont rajouté un groupe en disant aux étudiants « Attention, si vous prenez des notes de façon verbatim, vous mémoriserez moins bien, donc il vaut mieux que vous preniez des notes de façon synthétique. » Donc en informant les participants qu'il y avait une stratégie qui était plus efficace. Le graphique est très simple à retenir. La ligne horizontale, ça équivaut à zéro. Par rapport à zéro information rappelée par rapport à ce qui a été entendu. Lorsque c'est au-dessus de la ligne, c'est qu'il y a plus d'informations rappelées, et en dessous, c'est qu'il y a moins d'informations rappelées. En gris foncé, vous avez tout simplement la condition écriture manuelle, prise de notes manuelle. Et en gris clair, la condition prise de notes par ordinateur. On voit tout simplement qu'on rappelle plus d'informations lorsqu'on prend des notes de façon manuelle que de façon, qu'avec un ordinateur. Et il le réplique dans les trois études, en manipulant, y compris la connaissance des étudiants sur les stratégies de prise de notes. Gros résultat, qui montre clairement un effet défavorable de la prise de notes sur la mémorisation des informations, et en particulier les informations inférentielles, celles qui sont les plus importantes quand on suit des études, c'est pas ce qui est dit par l'enseignant, c'est ce qu'on peut dire, et nous comprendre à partir de ce que dit l'enseignant qui est le plus important, évidemment. Et plus on monte dans les niveaux d'études supérieures, plus c'est ça qui est important. Ce n'est pas le rappel du cours, comme on dit, quand on dit souvent aux étudiants en master, ne me récitez pas le cours. Je veux que vous me disiez ce que vous avez compris, que vous fassiez des liens. Mais c'est ça, c'est exactement ça, les liens inférentiels, ce qu'on appelle les connaissances inférentielles. C'est les liens que vous avez pu faire avec vos connaissances. Et c'est justement là-dessus qu'il y aurait un effet négatif. Alors, les choses ne sont pas si roses, je ne rentrerai pas dans le détail, puis ça fait longtemps que j'ai commencé à parler, donc je vais conclure là bientôt. Une étude récente n'a pas répliqué ce résultat. Vous pouvez remarquer en particulier en bas, ce qu'ils appellent les connaissances conceptuelles, c'est quasiment en ligne droite. Qu'on écrive manuellement, longhand, qu'on écrive avec un laptop, ou qu'on écrive avec une ardoise électronique. Pas d'effet sur les connaissances conceptuelles, mais un effet sur les connaissances factuelles, mais qui n'est pas vraiment significatif. En fait, ce que montre cette étude, c'est que finalement, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact. Ça n'aurait pas d'effet, ça n'aurait pas d'impact. Alors, on est bien embêtés, nos scientifiques. Une étude qui nous montre que ça a un impact négatif, une autre étude qui nous montre que ça n'a pas d'impact. Alors, on s'est dit, bon, on va le répliquer. Et donc, c'est la thèse de Marie Lebris, actuellement, là, qui est en train de faire sa thèse. Et il se trouve, alors, je ne rentre pas dans le détail du graphique, parce qu'il n'est pas très parlant, je le vois là maintenant, je suis désolé. On ne réplique pas non plus. En gros, vous pouvez considérer que c'est tout plat. On a trois éléments, plus un autre que je ne vous présente pas, trois éléments qui ont plutôt tendance à nous dire qu'en termes de mémorisation des informations, la prise de notes sur ordinateur n'aurait pas d'influence négative. Contrairement à ce qui s'est dit, ce qui se propage dans les manuels, puisque c'est là, il y a des manuels qui ont été écrits, ce qui est dit par les enseignants, ce que j'ai pu dire moi jusqu'à l'an dernier, avant qu'on soit au courant de cette réplication, ce que m'a demandé mon collègue tout à l'heure, quand je lui ai dit attention, ça n'a pas été répliqué, il m'a dit oula, va falloir qu'on le dise en cours. Et oui, va falloir le dire en cours, puisqu'on avait commencé à donner cette information. Mais c'est la science, c'est la science. Et il y a probablement des raisons, et en particulier les raisons sont probablement liées évidemment aux étudiants qui ont été pris, aux participants qui ont été pris. Je n'ai pas encore regardé attentivement quels sont les groupes qui ont été pris, ni les statistiques qui ont été faites, parce que ça aussi, c'est un des moyens très importants. Mais généralement, on peut toujours expliquer des absences de cohérence, de convergence, surtout quand théoriquement, on s'attend à un résultat. Le résultat de Mueller-Oppenheimer, tout le monde l'attendait. C'est pour ça aussi que tout le monde en a parlé. Ils sont vraiment contre-intuitifs. notre absence de réplication et le travail ici de morale des collaborateurs. Donc on doit pouvoir les expliquer. En tout cas, à ce jour, je ne peux pas dire que prendre des notes sur ordinateur, ça peut être négatif sur ce que vous allez retenir d'une conférence ou d'un cours. En revanche, ce qu'on a montré toujours avec Marie Lebris, c'est que prendre des notes sur un ordinateur, c'est toujours cognitivement plus coûteux. Et on retombe sur la même question. Mais, me direz-vous, si c'est plus coûteux, mais que ça n'a pas d'effet sur les apprentissages et la mémorisation, c'est pas trop grave. Et je dirais, d'accord, c'est pas trop grave. Alors moi, le chercheur, pour moi, c'est grave. Ça veut dire quelque chose que je ne comprends pas. Mais finalement, pour vous, ce n'est pas grave. D'accord ? Mon questionnement de chercheur est complètement différent du vôtre, évidemment. Pour conclure, un effet positif ou négatif, alors vous l'avez vu clairement, le clavier, ça affecte la représentation cérébrale des lettres. Les travaux de Velay et Loncan ont été répliqués, ils en ont publié une dizaine d'articles facilement là-dessus. C'est maintenant connu, on sait très bien que l'écriture manuelle permet effectivement de mieux ancrer dans le cerveau ce qu'est une lettre, la représentation de la lettre. On sait que ça change le fonctionnement cognitif du rédacteur, on l'a vu, c'est plus coûteux. C'est plus haché, c'est plus fragmenté. Ce qu'on sait aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est que finalement, lorsqu'on est sur ordinateur, on passe moins de temps à planifier. La première pause, celle qui nous fait réfléchir avant de commencer à écrire, est toujours beaucoup plus courte sur ordinateur que sur papier crayon. Et on révise aussi différemment. En particulier, et là je vais revenir au logiciel, on révise essentiellement l'orthographe lorsqu'on est sur un ordinateur, et très peu le fond du texte. Et surtout, lorsqu'on est sur papier, on révise après avoir écrit. On se donne des séances de révision. Sur ordinateur, elles disparaissent, ces séances de révision. Et surtout, pourquoi ? Pour la plupart, évidemment, chacun individuellement, on peut réagir, mais de façon globale, c'est ce qu'on observe. Mais surtout, ce qu'on observe, pourquoi est-ce qu'elle est fragmentée ? La plupart d'entre nous utilisons Word. Et il y a quelque chose qu'on utilise qu'on ne devrait jamais utiliser, c'est les petites vaguelettes bleues et vertes. Ces petites vaguelettes bleues et vertes, dès que vous en repérez une, vous arrêtez d'écrire pour la corriger, la faute. Or, si c'était sur un papier crayon, vous seriez en train de faire un brouillon et vous prendriez le temps pour la corriger. On l'a observé avec des mouvements oculaires. On a des films de mouvements oculaires. D'ailleurs, il y a un petit extrait là-haut qui passe où on voit le rédacteur finir sa phrase alors que son œil a déjà repéré. On voit le stylo qui est là, l'œil qui repère la faute d'orthographe. On le voit finir la phrase et quand il a fini la phrase, il revient. Généralement, sur un ordinateur, dès que la vaguelette apparaît, on s'arrête et on corrige. Or, si on est en train de réfléchir à une idée, si on avait un concept difficile à expliquer et qu'on s'arrête pour corriger une erreur, on a beaucoup plus de problèmes pour revenir. Et c'est ce qui fait la difficulté de l'écrit. Sur la qualité des textes, globalement, on a tendance à montrer plutôt un effet positif. Pourquoi ? Parce qu'indépendamment du clavier et de l'écran, on a un logiciel. Et le logiciel peut nous aider lorsqu'on analyse les textes en fin de rédaction, pour l'orthographe. On a des modes, je ne sais pas si vous les utilisez, mais on a le mode plan, qui permet de visualiser un texte long uniquement à partir des titres. Vous utilisez le mode plan ? Quasiment personne n'utilise sur Word, alors qu'il est fantastique ce mode. Vous pouvez réorganiser un texte en quelques secondes, simplement en bougeant les grandes parties à partir des titres. Donc lorsqu'on fait un document qui a 80, 100 ou 150 pages, ou voire plus, c'est très facile de changer l'organisation. On a des outils de carte mentale, de carte conceptuelle, on a plein d'outils qui peuvent nous aider à travailler, finalement. Donc écrire via ordinateur, globalement, c'est plutôt positif. Indépendamment des effets du clavier et de la taille de l'écran, d'accord ? Parce qu'on a le logiciel qui va venir compenser ces effets négatifs, généralement. Sur la prise de notes, on ne peut pas encore conclure. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, on a probablement les deux résultats. Évidemment, la question qui se pose, c'est la maîtrise du clavier. Je vous ai dit qu'il n'était jamais maîtrisé. Moi, j'ai envie de dire tout simplement à nos décideurs, via notre ministre, quand est-ce qu'on va imposer l'apprentissage du clavier très tôt dans les écoles ? Très tôt dans les écoles. Et pas aux dépens de l'écriture manuelle, en parallèle. En parallèle. Pour que les enfants aient automatisé très rapidement le clavier, qu'ils ne soient plus perturbés par ces mouvements des doigts complexes à chercher les lettres, etc. Qu'ils puissent enfin utiliser l'ordinateur indépendamment de l'artefact, comme on dit, qui nous permet d'interagir avec lui. Et dans le travail, on utilise exactement ces termes. Lorsqu'on a un humain face, un opérateur face à une machine, on veut qu'il automatise le fonctionnement de la machine pour que ce soit répétitif et que ça aboutisse généralement au même résultat. Alors, pour conclure, vous voyez qu'écrire sur ordinateur, c'est pas si simple que ça. Et les comparaisons sont pas si simples avec le papier crayon. Pourquoi ? Parce que papier crayon, c'est devant nous, c'est un stylo et un, qu'on maîtrise et une feuille, un dispositif. Or, comme je vous l'ai dit, vous voyez que sur un ordinateur, c'est un clavier, un écran et un traitement de texte. Et il faut analyser tout ça pour comprendre les effets sur le texte. Pour finir et être très rapide, il faut peut-être regarder, puisqu'on est quand même sur une exposition qui s'appelle « Mise à jour, apprendre à l'ère numérique », peut-être se faire une mise à jour sur les outils d'écriture. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de clavier et de papier-crayon, mais il existe bien d'autres outils d'écriture. Et des outils très très modernes. Les ardoises électroniques. La plupart d'entre vous ne connaissez pas les ardoises électroniques. Au lieu d'écrire sur une feuille, vous écrivez sur une petite tablette qui n'est faite que pour ça et qui fonctionne avec un écran comme une liseuse. Et vous pouvez numériser. La tablette de droite, c'est la Remarkable, et vous pouvez numériser. Il y a un système de reconnaissance d'écriture qui numérise quasiment instantanément sans apprentissage. La tablette de droite, vous pouvez effacer. Vous connaissez les ardoises magiques des enfants ? Ben, c'est le même principe, sauf qu'on peut numériser le texte. Il y a d'autres. Voilà. Il y a les encres interactives. Alors, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est les seuls qui ont inventé cette encre interactive. Donc, je suis obligé. Je vous laisse la regarder. On va en discuter juste après. Il y en a pour 2 minutes. Je vais arrêter quand ça sera. On écrit sur une tablette avec un stylet électronique, comme sur un papier, vous voyez. On peut corriger, on peut faire passer à la ligne, on peut raturer. On peut faire des diagrammes. On peut numériser les diagrammes, on peut les modifier en cours de frappe, on peut y revenir. On peut passer entre l'écriture manuelle et l'écriture numérisée, les diagrammes. On peut jongler entre les deux. On est quasiment là sur quelque chose qui est très très proche du papier crayon. On peut insérer des images très rapidement. On peut faire des dessins. On peut aller plus loin avec ce logiciel, on peut même faire des équations mathématiques que le logiciel résout lui-même. Il reconnaît, vous pouvez écrire des équations mathématiques à la main, il les numérise, comme si c'était des maths écrites directement sur latex, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, on va le passer. Vous voyez qu'on a des outils, les tablettes, les ardoises électroniques, des outils, des logiciels qui fonctionnent sur différentes tablettes. Vous pouvez trouver ces logiciels Nebo que vous trouvez sur différentes plateformes. On a aussi... Attendez, on va l'arrêter parce qu'il est un petit peu long le film. Ah, il a recommencé par ailleurs. Mais on a aussi les stylos électroniques, les smart pens. Alors, je cite des boîtes, mais bon, c'est les plus connus. C'est quoi les stylos électroniques ? Vous écrivez sur un carnet ou sur des feuilles, papier, crayon. Vous numérisez en même temps que vous écrivez avec un stylo normal. Alors, en fait, le secret de ces stylos, ici, de cette boîte, c'est qu'au bout du stylo, il y a une petite caméra qui regarde la feuille. Et la feuille, il y a des micro-points. Et le système connaît une base de données qui est plus grande que la surface de la Terre. Chaque micro-point est organisé d'une façon spécifique. Autrement dit, dès que la caméra est là, il sait où il est sur la feuille. Et il peut reconstituer l'écriture et l'enregistrer. Et vous pouvez exporter vos notes écrites sur un cahier pour les avoir à la fois sur le cahier, mais aussi sur votre ordinateur. Vous pouvez appliquer des systèmes de reconnaissance d'écriture. L'avantage de ce stylo, c'est qu'en plus, il enregistre le cours. Donc vous pouvez, pour les étudiants, enregistrer le cours et vous n'êtes plus obligé de faire de la prise de notes verbatim puisque vous avez le fichier audio. Voilà, je voulais simplement finir par ce regard vers le futur pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai traité l'ordinateur, mais que vous verrez, j'espère que dans quelques années je pourrai revenir, puisqu'en fait on teste quelques-uns de ces outils actuellement au laboratoire, pour vous dire, ben voilà, quels sont les avantages ou non de ces outils-là. Et puis maintenant un grand pas en arrière pour les questions, pour ceux qui l'ont reconnu. Le bureau de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Vous retrouvez quelques-uns des outils d'écriture, un calabre, un roseau, une plume. Merci pour votre attention et puis si vous avez des questions. Désolé, j'étais un petit peu plus long que prévu.
Je vais prendre un second micro, voilà, c'est mieux, pour poser les questions. Donc si j'aime bien vous.
Oui, une question par rapport à l'évolution des outils, la possibilité maintenant de dicter du texte directement, ou alors l'écriture prédictive, quand on tape un début de mot, le software est capable de prédire en fait quelle va être la fin du mot et la fin de la phrase. Oui. Donc, ça, est-ce que c'est, ça fait partie des évolutions auxquelles on va tous devoir passer ?
Mais quand on discute, quand on discute entre nous, je m'oppose généralement à mes collègues sur le clavier. Mes collègues disent que le clavier va continuer. Moi, je suis quasiment persuadé qu'il va disparaître. Vous n'avez qu'à voir les deux outils que je vous ai présentés là. En revanche, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que tout simplement l'écriture, au sens geste graphique, ne va pas disparaître au profit de la dictée vocale ? J'ai pas de réponse. J'aurais tendance à dire que probablement que oui, à l'avenir, oui. En revanche, quand vous testez les systèmes actuels, ils ne sont pas exempts de difficultés. Donc, tant qu'ils ne sont pas efficaces, l'écriture classique perdurera, mais évidemment que lorsqu'il y aura des progrès techniques qui seront faits, je pense qu'on passera à la dictée vocale. Et du coup, ça enlève la question, effectivement, sur les systèmes prédictifs, puisque lorsqu'on passera à la dictée vocale, il n'y aura plus besoin d'avoir des systèmes prédictifs. En revanche, il est clair que les systèmes prédictifs sont énormément utilisés actuellement et de plus en plus par les adultes. Lorsqu'on tape des SMS, par exemple, ou lorsqu'on tape sur une tablette. Les tablettes, alors, je ne sais pas toutes les tablettes, vous prenez les derniers iPads, lorsque vous êtes dans une zone de texte, il propose des mots. Ce n'est pas plus que pour les SMS. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. En revanche, c'est une nouvelle. C'est des nouveaux gestes d'écriture, un nouveau regard qui est partagé, une nouvelle attention qui est distribuée. C'est-à-dire que non seulement vous êtes sur votre clavier, vous êtes sur votre texte qui s'inscrit, mais en plus, il faut regarder les mots qui vous sont proposés. Pas d'évaluation, mais vous voyez que si je fais simplement cette analyse de la tâche très rapide, je peux penser qu'il va y avoir probablement, peut-être pas de grosses difficultés, mais en tout cas des petites difficultés ou encore une rédaction plus hachée ou un apprentissage qui doit se faire. Généralement, une fois que les apprentissages sont faits, ça ne pose plus de problème. On est sur des processus automatiques. La question qui m'intéresse le plus, c'est effectivement pendant les phases d'apprentissage. Mais je dirais que c'est la dictée vocale qui va dominer. Alors c'est... Je continue avec Jean-Luc Velay. Nous sommes en train de. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur un article où justement on parle des outils du futur de l'écriture. Il va plus loin que ça. Il est en train de développer des outils qui, lorsqu'on écrit, font du bruit et de la musique. Et on pourrait travailler avec un retour sonore pour l'écriture. Donc les solutions techniques vont probablement exploser dans les années qui viennent. Et comme avec tous ces développements technologiques, on ne les connaît pas, ben il faut s'attendre à ce qu'il y ait des grosses révolutions encore, technologiques. Non, il y a des sons qui accompagnent ce qu'on écrit. Alors ça peut aider pour la remédiation. Ils l'ont testé avec des patients Parkinson, je crois, qui arrivent à écrire beaucoup plus rapidement des textes lisibles qu'avant, parce qu'ils jouent avec le son. Mais ça pourrait être aussi de la dictée. Pendant qu'on écrit, entendre ce qu'on est en train de dire, mais tout est possible actuellement. D'un point de vue informatique, tout est possible. La multimodalité, ce qu'on appelle la multimodalité, est tout à fait possible.
Oui, du coup, ma question, c'était par rapport à l'écriture en dictée vocale, au niveau des aires cérébrales, au niveau motricité et enfin, langage écrit et langage oral, on n'est pas tout à fait dans la même zone. Comment est-ce que...
Alors attention, parce que les zones de préparation du discours sont les mêmes. Ce qui diffère, c'est la mise en œuvre. Autrement dit, c'est tout ce qui est lié à l'appareil phonologique ou à l'appareil graphomoteur.
Mais du coup, on parle pas le comme langage, on écrit. Pas comme on écrit.
Ah, on ne sait pas encore. C'est la question qui se pose, en fait, sur l'identité vocale.
En fait, c'est pas l'ordinateur qui pose problème, c'est nous, pour l'instant.
Ah non, c'est pas. Ouh là là, on ne sait pas. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne sait pas du tout. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe. En revanche, on le sait que les mécanismes mentaux qui permettent de produire du langage sont identiques dans les deux conditions qui permettent de produire le langage avant l'articulation ou avant la graphomotricité. Tout ce qui est avant est identique. Sauf si l'outil change la stratégie. Mais d'un point de vue cérébral, c'est la même chose. Lorsqu'on fait une analyse de l'électroencéphalographie, par exemple avec mon collègue Cyril Perret ici, et que l'on demande d'écrire manuellement, qu'on demande d'écrire avec un ordinateur, on peut faire la prédiction que ce qui va changer, ça ne sera pas toute la période du début, par exemple, si on présente une image et qu'il faut écrire un mot, et on l'observe, mais ça sera être juste la fin. Ce que tu as fait quand tu as regardé oral et écrit, ce qui change, c'est juste la fin. À partir du moment où on articule, où on produit le geste, mais avant, c'est exactement les mêmes ondes qui émergent, les mêmes activités cérébrales et les mêmes localisations cérébrales. C'est-à-dire que ce sont les mêmes ondes du cerveau qui nous permettent de produire du langage. En revanche, la modalité, elle, est différente. Et ce sont les aires du cerveau qui sont liées à la modalité qui diffèrent. Mais produire du langage avec ma main, ça ne change pas les processus mentaux qui me permettent de générer des idées, de trouver la phrase. En revanche, on ne sait pas si d'un point de vue des stratégies, et là donc je ne parle plus d'opération mentale, mais la façon dont moi je vais procéder, est-ce que ça ne va pas changer ma façon d'écrire un texte ? Le fait que je puisse dicter versus à ce que j'ai un papier crayon ou un ordinateur. Donc il faut bien distinguer la stratégie et le processus mental de base. Le processus mental de base, il est toujours là, il sera identique.
Quand l'on parle, on ne donne pas forcément le même. Des fois, on raccourcit certains mots, on ne parle pas de la même façon que l'on écrit.
Ben oui, puisqu'on parle et qu'on écrit. Excusez-moi de faire un peu de tautologie, mais non. Une fois on parle, une fois on écrit. Donc, forcément,
mais c'est pour ça
donc que... forcément, l'output, oui, mais la sortie ouais. est différente. Une est visuelle, une est orale. Mais avant, en fait, produire du langage, ce n'est pas bouger les lèvres, ce n'est pas bouger la main. Vous pourriez produire un texte sans même bouger la main ni bouger les lèvres, faites-le. Vous pouvez penser écrire un texte. Et ces processus-là sont les mêmes. Ce qui change, c'est à partir du moment où vous voulez faire une trace, soit une trace phonologique, orale, soit une trace écrite. Mais vous pouvez penser sans aucune de ces traces. Et c'est ces processus-là qui ne bougent pas. Si je vous demande de me dire comment vous pourriez dire cette action-là, attendez, je le ferme, cette action-là, pensez-le. Comment vous pourriez décrire cette action ? Vous allez penser la même chose, mais vous allez, une fois utiliser votre main, une fois utiliser votre bouche. Mais vous allez penser la même chose. Et à partir de l'orthographe, à partir de la phonologie, ça va se distinguer. Les travaux qui ont été faits sur l'image cérébrale le valident tout ça, tout ce que je suis en train de dire, évidemment. On a toujours les mêmes zones, on les connaît les zones en plus. Les zones phonologiques sont plutôt par là, l'aire de Broca. On a les zones plutôt orthographiques sur le gyrus fusiforme, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, bref, mais voilà, il est par là. La fameuse boîte aux lettres de Stanislas Dehaene. Les aires visuelles aussi. On a les aires ventrales, les aires. On a tout un tas d'aires qu'on connaît qui fonctionnent de façon systématique dans toutes les situations de production du langage. Et encore une fois, ce qui distingue, c'est la modalité.
Oui. Oui, j'avais une deuxième question. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi la qualité de l'écriture manuelle se perd avec le temps ? Je ne parle pas que des médecins, mais. Est-ce que c'est parce qu'on va plus vite ?
Oui. Moi, j'ai une explication. Je ne sais pas si c'est une explication scientifique. Un, parce que les enseignants ne font plus apprendre une écriture de cette façon-là. Ce n'est plus une norme. Avant, lorsqu'on faisait un CV, s'il n'y avait pas les liés et les déliés, le CV était jeté directement. Une écriture d'une personne lettrée avait forcément les liés et les déliés. Je ne sais pas si vous retenez ce que c'était. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utiliser une plume dans un sens ou dans l'autre, mais c'est très important. Mais il y a aussi un autre point. C'est qu'on n'apprend plus aux enfants à écrire autant de temps qu'on le faisait avant. Mais après, je ne sais pas. Après, il faudrait voir un historien de l'écriture, un sociologue, etc. Voilà. Je ne m'intéresse pas tant à l'histoire, à comprendre l'histoire. Je m'intéresse à comprendre comment on fonctionne dans l'intérieur de notre esprit. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres explications que celles que j'ai avancées, évidemment. Des normes sociales, entre autres. Les normes sociales ont beaucoup changé vis-à-vis de l'écriture.
Avec plein de questions, en fait, c'est ça. On attend la suite des travaux de recherche. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'informations complémentaires. Donc, bonne fin de soirée à tous. Il faut plaisir de vous retrouver, soit à l'exposition, soit je vous donne rendez-vous à suivre nos différents programmes la semaine prochaine, encore avec des conférences, des rencontres. À bientôt, bonne soirée.